Salut, c'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet en direct de la salle. Ah, ça fait comme le jeu des 1000 francs, t'as vu, c'est formidable. Hein. Ah non, des 1000 euros, ça fait comme le jeu des 1000 euros. Eh bien, on l'a vu, tout le monde n'est pas à Cannes. Là-bas si j'y suis est ici, à la salle dans les Cévennes. La salle, c'est entre Nîmes et Alès et Anduze. Et on est là pour le 8e festival du film documentaire. Ici, pas de marche à monter ou à descendre, pas de palme d'or, mais des films. 51 films sont présentés, Henri, c'est ça?
Oui, 51 films cette année. L'année dernière, il y en avait 40, cette fois-ci, c'est 50.
Et l'année prochaine sera 60.
Ah oui, non, peut-être pas.
Voilà, la salle, c'est un, on va dire un village.
Oui, c'est un village, 1085
habitants. 1085
habitants.
Voilà, j'ai situé à peu près. C'est le début des Cévennes.
Oui, c'est le premier contrefort des Cévennes.
Et voilà, vous pouvez venir, vous pouvez nous rejoindre. Le festival a commencé hier, jeudi, et ce sera jusqu'à samedi soir avec un bal final. Il y a 4 lieux pour les projections. Il y a le temple, et oui, ça on va en parler bien évidemment, parce qu'en face il y a l'église,
oui.
Voilà, ça nous renvoie à l'histoire locale. Il y a le foyer,
oui,
et puis cette année, la grosse innovation, c'est un chapiteau au milieu
de la
place du village. On était venu l'année dernière pour présenter Chomsky et compagnie, on était venu un peu en traînant les pieds, pour ne rien vous cacher, monsieur le maire, et on a passé un séjour tellement formidable qu'on a voulu absolument revenir cette année. Et voilà, on est ensemble jusqu'à 16h en direct de la salle. Allons-y, les fanfarons. Bravo. Il faut décrire un petit peu où on est quand même. On est sous les platanes, mais c'est pas des platanes. Hein. En tous les cas, on est sur la place du village, à côté de la place du village. Voilà, un public sympa, souriant. Et puis les fanfarons, ils sont quand même assez au point, les fanfarons. L'accordéon est particulièrement réussi. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a contrebasse, on a hélicon, guitare, washboard, voilà, ils vont nous accompagner tout au long de cette heure que nous allons passer ensemble. Celui que vous avez entendu, c'est Henri de la Tour, qui est le maire, monsieur le maire de la salle, et qui est le créateur de ce festival du film documentaire. Henri de la Tour est réalisateur de film documentaire lui-même. C'est un autochtone, c'est quelqu'un du pays, c'est un indigène, et néanmoins auteur de documentaire. Il a organisé ce festival Et puis, bah voilà, j'ai eu un certain succès. Et voilà, maintenant, il se retrouve avec la lourde charge d'être le maire de la salle. C'est ça, Henri ?
C'est ça, c'est voilà. Ça, avec beaucoup de plaisir. J'y prends beaucoup de plaisir.
Voilà, ça, c'est de la pure démago. Et c'est pas ce que tu dis toujours. Ouais. Et donc, c'est Henri de la Tour qui choisit les films selon son gré, selon ses caprices et selon ses envies. Et qui donc a sélectionné les films que vous pouvez voir dans les quatre lieux que nous avons indiqués tout à l'heure, tout au long de ce festival qui, je le rappelle, dure jusqu'à samedi soir. Alors, c'est bien, j'ai pas,
c'est impeccable. Jusque-là, t'as pas fait d'erreur.
Jusque-là.
Enfin, à part pour des magots, c'est pas top. Hein.
C'est il tient à être élu. Sur quels critères tu choisis les films ?
Il faut que ça me boulègue, il faut que ça me bouge. Alors,
ça
me bouge, voilà, l'estomac, le cœur, le cerveau, il faut que ça me bouge. Voilà. C'est des films qui m'ont ému d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, on a un thème, donc c'est un cadre quand même. Le thème est au fait, il est où le bonheur ? Et donc, il faut que le
sujet... Cette année, c'est le bonheur.
Oui.
Bon, oui.
Au fait, il est où le bonheur ? On ne va pas définir le bonheur parce qu'on n'est pas dupe quand même, on sait qu'il n'existe pas. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'est-ce qu'on fait pour y arriver ? C'est le cheminement.
Ouais. Mais voilà. Quel lien entre le bonheur et les films qui sont présentés cette année ?
Ah ben là, on peut parler des films, mais oui, si tu veux.
Oui, d'accord. Alors, les films qui sont présentés, est-ce qu'il y a un thème général ? À part parce que moi, je n'ai pas vu tellement de liens avec le bonheur. Et
ah ben si, par exemple, là, il y a 3-4 films sur l'autogestion. Mais l'autogestion, c'est quand même un cheminement vers le bonheur.
Ah, d'accord.
Eh oui.
Ouais. Donc tout mène au bonheur, quoi, à un moment ou à un autre.
Ben, c'est chacun, oui. Alors là, on le voit à l'aune de ce qu'on vit et de ce qu'on est, évidemment. Mais je trouve que, surtout dans la période actuelle, où finalement le bonheur était jusqu'à présent très consumériste, c'est-à-dire consommer, vous serez heureux. Là, on voit bien que c'est pas là le bonheur et que donc il faut trouver d'autres voies. Et donc, poser la question aujourd'hui me semble tout à fait pertinent, voire même un peu provocateur, puisque tout s'écroule autour de nous, enfin, le système s'écroule autour de nous. Donc, c'est le moment d'y penser au bonheur, de voir comment on peut trouver des nouveaux chemins.
Bien, alors on va voir si ça se vérifie. On a regardé le catalogue et presque au hasard, il faut bien dire la vérité, avec l'équipe de la BASSI, j'y suis, et sous les conseils éclairés d'Henri de la Tour, on a choisi un certain nombre de films et de réalisateurs de films ou de ceux qui sont susceptibles de présenter les films. Il faut tout de suite que je dise que je n'en ai vu aucun. Aucun des films dont il va être question n'ont été vus par celui qui est censé tout savoir et tout présenter les choses correctement, c'est-à-dire moi-même. Mais voilà, on va faire comme si on... Comme si je savais tout, comme font les journalistes en général. Alors, on va commencer par Alléluia de Hills. C'est un film de Adolfa Mekas et qui date de 1963. Et celui qui a tenu à ce que ce film soit présenté cette année, si j'ai bien tout compris, c'est Eric Hazan. Eric Hazan, vous le connaissez si vous écoutez là-bas, si j'y suis de temps en temps, c'est l'éditeur des éditions de La Fabrique. Plus connu sous le nom de l'ami de Michel Alliot-Marie. Hein, il faut bien dire.
Oui, oui, c'est une amitié exemplaire.
Oui. Michel Alliot-Marie.
Elle a beaucoup fait pour nous.
Elle a beaucoup fait pour les éditions de La Fabrique. Eric Hazan, est-ce que vous pouvez présenter... Est-ce que je veux vraiment vous entendre parler du bonheur ?
Oui, c'est vrai que quand Henri de la Tour m'a dit que le thème c'était le bonheur, instantanément... J'ai pensé à Alléluia les collines, ce film des frères Mekas que j'ai vu quand il est sorti en France. Ça doit bien faire une bonne quarantaine d'années. Mais je n'ai jamais oublié ce film et j'y pense depuis toujours. Parce que c'est un film véritablement sur le bonheur et sur le bonheur par l'amitié. Parce que, comme déjà Henri l'a fait remarquer... L'amitié, c'est le bonheur n'est pas un idéal personnel, c'est vraiment quelque chose de complètement collectif. Et ce film, vous le verrez, est un pur moment de bonheur en voyant des gens heureux. Mais je peux raconter un petit truc ?
Bah oui, vous êtes là pour ça.
Voilà, je me suis promené dans le village ce matin et dans une petite rue qui s'appelle le passage de la Traverse, je crois. Ce qui n'est pas anodin, d'ailleurs, en y réfléchissant. que ce soit Passage de la Traverse. J'ai vu un graffiti qui m'a absolument stupéfait. Il y avait écrit « Bonheur égale association de malfaiteurs ».
Étrange.
Mais je crois que celui ou celle qui a écrit ça, il a tout compris. Parce qu'au fond, on vient de le dire, le bonheur, c'est quelque chose de collectif. Donc, c'est une sorte d'association. Et de malfaiteurs, mais oui. Puisque, au fond, tous les gens, tous celles qui cherchent à construire une manière de bonheur en menant une vie en accord avec ce qu'ils pensent, eh ben depuis Diogène le Cynique, celui qui disait à Alexandre « ôte-toi de mon soleil », depuis cette époque, tous les gens qui mènent leur vie en accord avec leurs idées sont des suspects. Et aujourd'hui, dans le dispositif judiciaire policier dans lequel nous sommes engagés, suspect égale malfaiteur. Donc, finalement... Il suffit d'être suspect pour devenir malfaiteur. Il suffit d'être malfaiteur pour être mis en prison. Donc ce graffiti bonheur égale association de malfaiteurs m'a paru une espèce de concentré vraiment génial de la situation actuelle.
Merci. Vous partez pas.
Hein. Non,
non. Vous gardez. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de ce village quand même. Parce que ce qui est frappant, c'est le temple et l'église. Et on est dans les Cévennes. Alors, il faudrait bien avoir quelques explications là-dessus et aussi sur l'histoire du village. Le village est très particulier, Henri. Hein, c'est un village qui fait un kilomètre de long,
oui.
Avec une rue qui fait un kilomètre de long. Deux kilomètres de long. Et puis, qui longe une rivière. Hein, et entre la rue de 2 kilomètres de long et la rivière, il y a des maisons.
Oui.
Voilà. C'est très étroit, comme ça. Et ça a une raison d'être. Alors,
Je peux dire quelque chose ?
Oui, tu peux dire quelque chose.
Moi, je pense que ce village rue, qui est effectivement pourrait paraître ne pas être très convivial, en fait, l'est beaucoup. Parce que c'est, je pense, en réaction à cette distance, cette longueur-là, il y a un cœur de village qui est très, très fort dans lequel on est, avec la place à côté, qui vit énormément. Et ça je pense que c'est dû à ça. En réaction, les gens se retrouvent très fortement ici, sur ce cœur de village, où tout est concentré, l'épicerie, l'école, la mairie, l'église, le temple, le foyer, tout est au cœur du village. Et ce cœur est très battant et très fort. Voilà.
Alors, le temple et l'église, pourquoi ? Tu m'as proposé de poser ces questions à Claude Lafont. Vous êtes Claude Lafont, médecin, retraité. Ouais. Et j'ai demandé à Henri, est-ce que tu n'as pas un érudit local ? Il m'a dit, si, c'est Claude Lafont. Bon,
est-ce que vous pouvez... C'est peut-être un peu fort, mais... Bon.
Oui, mais enfin, local, quoi.
Ouais, local.
Est-ce que vous pouvez, non, mais en quelques mots,
ouais.
nous dire un petit peu pourquoi il y a ce temple, cette église qui se font face à côté de la place ?
Oui, d'abord, le temple, c'est le troisième, parce que les deux premiers ont été détruits, pour le savoir. Et l'église, c'est la deuxième, parce que la première a été détruite. Donc l'histoire, elle est quand même mouvementée. Et c'est vrai que ce village qui paraît anodin, calme, tranquille, quand on le voit comme ça, en fait, il a une histoire qui est étonnante, qui est atypique, innovante, et qui interpelle même souvent. Elle peut même paraître déroutante si on l'étudie superficiellement. Et en fait, trois qualités dominent chez les Lassalois, qui vont expliquer
les
Lassalois, les habitants, les Lassalois. Donc le courage devant l'effort physique, il n'y a qu'à voir les 11 000 km de murets qui ont été bâtis au fil des siècles pour soutenir les murs. La défense des convictions, qu'elles soient religieuses ou politiques. On peut même parler d'obstination. Et c'est vrai que les Lassalois ont défendu leurs idées politiques et religieuses avec obstination. Et puis l'adoption des idées nouvelles, c'est un trait de caractère de ce village. Et c'est pour ça que je dis que c'est étonnant. Et on peut le voir un peu en détail si on veut. Alors, quelques mots sur le développement. D'abord, l'histoire commence environ au XIIIe siècle, XIIe, XIIIe. Avant, il n'y a rien. Il n'y avait rien à la salle. Le pouvoir était, il faut le savoir, à Saint-Bonnet ou à Calviac. Le pouvoir royal, le château royal, le Castella, c'était à Saint-Bonnet. À la salle, il n'y avait rien. C'est en 1269 que les moines arrivent à la salle. Ils forment une cella, d'où peut-être le nom qui explique
la salle.
La salle, voilà. Et ils bâtissent un prieuré à La Moutte, tout près de chez nous.
Alors, donc la salle, ça veut dire ?
On dit que ça veut dire la cella, la cellule des moines. C'est peut-être une explication. C'est controversé, mais bon, on peut l'accepter parce que Ça peut paraître logique. Et ces moines s'installent sur la montre tout à côté de chez nous, au-dessus du temple et de l'école, au-dessus des écoles. Ils forment un petit prieuré et développent l'agriculture locale. Ça part de là. Il y a un deuxième pôle qui se développe, complètement à l'opposé. C'est au Cap de Ville, au sommet de la salle. Et puis ces deux pôles se réunissent et ça fait ce village rue un peu, dont on a parlé tout à l'heure. Alors quelques mots sur les idées nouvelles, parce que ça, je trouve que c'est important. D'abord, depuis très longtemps, les régents des écoles. Les régents des écoles, ce sont des gens qui étaient payés par les Salois et les agriculteurs locaux pour éduquer, assurer l'éducation des enfants. Mmh. Alors il y avait un contrat qui était passé, on définissait un salaire, ils étaient logés, il y avait un cahier des charges, et ils étaient engagés pour un an. Et il y avait une dizaine d'enfants, ou un peu plus. C'est une petite école comme ça. C'est un système privé qui assurait donc l'instruction et l'éducation des enfants. Donc ça, c'est quand même atypique dans ce village. Après, on va, pour illustrer la défense des idées religieuses, on va parler quand même de la guerre des religions.
Bah oui, c'est ça qui nous intéresse.
Savoir que les idées de la réforme apparaissent dès 1547, ce qui est quand même très tôt, début 16e. En 1561, il y a le premier baptême protestant qui est fait à La Salle par le pasteur Tourtelon. Donc on était quand même très précurseur par rapport au reste de la France. 1569, donc juste 8 ans après, le premier temple, bâti au Colombier, à La Moutte, près de La Moutte, là-haut. Ce temple ne durera pas longtemps, il sera détruit. Et il servira à construire d'ailleurs la première église. Bon, c'est un détail. En 1572, il y a la Saint-Barthélemy. Un événement national dans tout le pays, mais qui fait que beaucoup de gens de la plaine, de Nîmois, vont venir se réfugier à La Salle. Parce que c'est un peu dans les montagnes et tout. Donc le nombre de protestants augmentant, on bâtit un deuxième temple, à la place du temple actuel. Parce que malgré la Saint-Barthélemy, on pourrait croire que ça décourage les Lassallois en se disant on va tous se faire trucider. Ben non, il faut un deuxième temple plus grand. Voilà, comme ça au moins c'est bien. Donc les conflits continuent. Et puis Henri IV signe l'édit de Nantes, qui ramène une certaine paix dans toute la France d'ailleurs, et ici aussi. Mais les Cévenols, ils ne sont pas contents parce que l'édit de Nantes, il est mal appliqué. Il n'est pas appliqué comme ils le veulent. Donc ils reprennent les armes avec Rohan. Rohan, le général Rohan, là, le maréchal, non, le général, je crois. Bon, les guerres de Rohan, qui donc on reprend les armes et on refait la guerre pour que le traité de l'édit de Nantes soit bien appliqué. Et ça va nous mener à la paix d'Alès, une paix relative encore pendant quelques années. Et puis Louis XIV arrive au pouvoir, lui il n'est pas d'accord du tout. Il ne veut pas de deux religions, donc il révoque l'édit de Nantes, tout simplement. L'édit qui était soi-disant irrévocable est révoqué. Et évidemment, là, tout reprend, quoi. Tout repart, et de plus belle. Et alors, à La Salle, on a un chef local qui s'appelle Roland, Pierre Laporte. Il est né en 1685, au moment de la révocation des édits de Nantes. Toute sa jeunesse, il a entendu parler que de guerre, de massacres, de persécutions. Et puis, en 1702-3, il habitait en Anduze, à un spectacle épouvantable. Il voit des têtes de camisards qui sont coupées, qui sont exposées sur le pont d'Anduze. Alors ça doit lui retourner le sang. Ça, c'est trop. Il prend les armes et il va commencer sa guérilla avec tout un groupe de camisards autour de La Salle. Chaque chef avait une région. Lui, c'était la région de La Salle et son canton, on va dire, à peu près. Et il avait quand même 124 camisards, ce qui est quand même pas mal. Et alors donc, une guérilla locale, exactement comme avec des commandos. On arrive, on brûle une église, on repart. Et alors, évidemment, chaque action de Roland était suivie de persécutions.
Est-ce que tout ça est encore présent dans les esprits, Henri ?
Présent, non, quand même. Mais c'est porteur de l'histoire.
Qu'est-ce qui reste de tout ça ?
En fait, moi, je dirais que c'est l'ensemble de cette histoire, parce que, bon, je sais pas, on en est encore qu'au XVIIe siècle.
Oui, donc oui. Il faut qu'on parle de cinéma.
Voilà. Et c'est l'histoire. Moi, je pense que cette histoire-là des Lassallois liée au protestantisme donne une société aujourd'hui porteuse d'une richesse qu'on trouve rarement ailleurs, qui est aimer l'intelligence, aimer l'échange, aimer le lien social. Je veux dire, c'est moi je trouve que bon, parler du bonheur ici à La Salle, c'est un bonheur aussi. Je crois que c'est le seul village en France, voire même au monde, qui consacre depuis plus de 30 ans 15% de son budget sur le lien social. Je crois que c'est quelque chose d'unique. Et il y a, merci madame,
Et donc, on est dans cette histoire-là, cette histoire qui fait que les gens, même quand ils sont adversaires, entre guillemets, continuent d'avoir du lien, continuent de s'apprécier. Alors évidemment, on a toujours marginalement, comme toutes les sociétés, des accidents de parcours. Mais je trouve qu'il y a une richesse ici à la salle que j'ai trouvée nulle part ailleurs, en tout cas. Et donc, on va arriver sur le cinéma, d'où la nécessité de développer la culture, parce que les gens sont amoureux de la culture ici à la salle, amoureux de l'intelligence.
On faudra qu'on parle aussi de l'activité industrielle et de l'activité...
Je termine juste avec quelques mots sur l'obstination des Lassalois à défendre leurs convictions. Alors, on a parlé des convictions religieuses. Les convictions politiques aussi avec la résistance. On ne peut pas parler de la salle sans parler de la résistance, ce n'est pas possible. Et notamment ici, où elle a été précoce. On n'a pas attendu 44 et demi.
Ça a commencé quand ici ?
43, là. Dès 43, il y a eu le maquis du château de Malérargue, qui est juste avant la salle en Andaluze. Et puis les premières réunions des maquisards à la Maillerie, une petite maison qui est au-dessus du stade, là, un peu plus haut, où il y a eu les premières réunions du réseau des maquisards. Alors il y a deux ou trois actions quand même extraordinaires. C'est en 44, 1er février 44, alors que la France était encore occupée, qu'il y avait des Allemands à Saint-Jean-du-Gard, etc. Ils organisent un défilé, ils bloquent les entrées de la salle en les surveillant, pour être sûr de ne pas être surpris par les Allemands. Et ils organisent un défilé des maquisards, ils mettent des drapeaux partout, ils illuminent la place, ça se passait de nuit, et ils chantent la Marseillaise en pleine nuit, j'allais dire au-dessus de tout le monde, en tout cas à la barbe des Allemands. Et tout ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de répression, parce qu'il aurait pu y avoir une répression. Et je trouve que ça, c'est vraiment un exemple extraordinaire de courage, quoi, de détermination. Et puis enfin, pour faire vite, le 16 juin 1944, on peut parler de combat du château de Scornelli. Et je trouve que même sur le plan national, on n'en parle pas assez, parce qu'il y a eu quand même 28 morts allemands. Il y avait 5 compagnies de gendarmerie qui étaient là, 2 ou 3 mitrailleuses qui donnaient aussi un appui. Bon, c'est pas du bonheur tout ça, mais c'est l'histoire de la fin. Je parle du passé là. Je trouve ça extraordinaire comme attitude des Lassalois, parce que il y aurait pu y avoir des représailles, un deuxième oradour sur Glane, il n'y a rien eu, quoi. Les Allemands partaient, ils sont partis. Voilà.
Gendarmerie française.
Ouais. Gendarmerie française qui est venue donner
l'appui.
Oui, donc le terrain de la culture est aussi un terrain de résistance. Et je pense que les Lassalois se retrouvent beaucoup là-dedans. Et c'est vrai que c'est très difficile de parler de création sans parler de regard porté sur notre société. Et comment porter un regard sur notre société qui ne soit pas négatif un peu, quelque part ?
La parole au fanfaron.
de la salle pour le 8e festival du film documentaire. Alors voilà, on a fait quelques pas dans l'histoire extraordinaire de cette région et de ce village, de la salle, mais on va quand même parler de cinéma. On va parler de cinéma avec Nathalie Combe, qui présente plusieurs films, Nathalie.
Oui. Oui, on a eu la chance d'avoir une carte blanche ce soir au festival. C'est Henri qui nous a invités à présenter des films de notre choix. Et c'est vrai que...
Nous, c'est vous. Vous êtes qui, vous ?
Alors nous, en fait, on nous sommes deux. C'est-à-dire que Jeanne Acolyte, qui est quelque part là, à côté de moi. Nous, c'est Yann Sinic et moi-même. Donc, on a monté une petite structure de production à Saint-Jean-du-Gard. Donc, on est comme Henri, autochtone et néanmoins documentariste. Voilà. Et donc, ça fait 10 ans qu'on travaille ici, qu'on fait des films ensemble, Yann et moi, dans un fonctionnement, disons, de type label indépendant, comme ce qui se pratique soit dans les petites maisons d'édition, ou surtout dans la musique, les labels rock, etc. C'est-à-dire qu'une certaine autonomie matérielle qui nous permet d'avoir une grande liberté de choix dans ce que nous réalisons. Voilà, et puis depuis quelques temps, on a monté un programme de diffusion qui s'appelle Caméra Stylo, au sein duquel on essaie de défendre et de faire connaître les films un petit peu marginaux, parce que c'est vrai que l'industrie du cinéma est quand même très très balisée, les modes de production sont très balisés, et les modes de diffusion aussi, c'est-à-dire qu'en dehors des grands médias, nous pensons qu'il y a des moyens de faire exister des films autrement, donc on repère des films comme ça qui sont produits un petit peu en marge.
Et vous les diffusez comment ? Vous les montrez comment ? Alors,
de façon... Il y a de multiples façons, en fait. On peut diffuser. Alors, en fait, on a monté une sorte de festival nomade, qu'on appelle Caméra Stylo, qui en est à sa 3e édition maintenant, qui fonctionne avec une exposition chaque fois. C'est-à-dire que chaque fois, il y a une sorte de thématique où les films sont programmés en accompagnement d'une exposition, mais aussi de personnes, de spécialistes du cinéma qui viennent accompagner les films, qui discutent des films, qui permettent aussi à un public peut-être... pas forcément avertis, parce que ce sont souvent des formes un petit peu déroutantes, parce que ce sont des films atypiques, ce sont des films produits en marge des circuits traditionnels. Donc du coup, ça donne des formes inhabituelles. Ça donne soit des films très intimistes, soit des films avec une démarche un petit peu expérimentale. Là, les films que nous montrons ce soir, en fait, sont...
À quelle heure ? À quelle heure ?
À 21h ce
D'accord.
soir.
D'accord. Où ?
C'est à l'église, je crois, hein, Henri. Hein. Oui, c'est ça. Là, ce sont des films... En fait, c'est vrai que la question du bonheur ne cesse pas de nous interroger, nous, comme tout le monde. Et avec cette, je crois, comme beaucoup de gens, une interrogation sur ce qu'il nous est possible maintenant de faire, seul ou ensemble. C'est-à-dire que là, en fait, on a réuni des films très, très différents. C'est-à-dire qu'il y a un film qui émane d'un collectif qui s'appelle le collectif Ciné Lutte, qui a été constitué en 1974 et qui a duré, je crois, 7 ans, et qui s'est donné pour mission, en fait, d'accompagner les mouvements ouvriers des années 70 et donc d'épouser les causes des ouvriers, de leur donner, en fait, une caisse de résonance pour que ces grèves soient connues d'une autre façon que dans les médias traditionnels. Et donc là, déjà, c'est une première forme de bonheur qui est assez enthousiasmante et qui peut renvoyer à ce que vous disiez tout à l'heure, Eric Hazan. C'est vrai que l'idée, là, c'est que c'est peut-être une association de malfaiteurs, parce que c'est vrai qu'une grève, c'est sans doute faire mal, hein, c'est puisqu'on ne va pas au boulot, on occupe l'usine, c'est très, très mal vu. On déglingue la machine, en fait, la grande machine bien huilée de l'industrie, etc. Donc, il y a plein de choses qui font que c'est mal. C'est vrai que c'est mal. Et là, actuellement, c'est tellement mal et tellement mal vu qu'on a beaucoup de difficultés à le faire autrement que d'une façon radicale et violente, et que l'opposition devient de plus en plus forte. Et là, ce qui est intéressant dans ce film-là, dans un simple exemple, c'est que c'est une...
Voilà. Alors, un simple exemple, Nathalie, c'est un simple exemple, prend pour sujet l'affaire de l'imprimerie d'Arbois à Montreuil en 1974,
voilà.
Où les ouvriers reprennent l'imprimerie et autogèrent leur entreprise. C'est intéressant parce qu'on va parler de l'Argentine après. Et il se trouve que, bon, hasard de la programmation, au goût
d'Henri de Latour, mais il y a plusieurs thèmes comme ça qui tournent autour de l'autogestion.
Ben oui, parce que en fait, ils reprennent l'imprimerie, mais ils la reprennent pas. J'ai le sentiment qu'ils la reprennent pas. C'est pas une décision préalable en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que d'abord il y a la grève, d'abord il y a le temps, comme ça, il y a cet arrêt dans voilà ce flux habituel. On travaille, on vient au boulot, on a des mécaniques comme ça à maintenir pour que ça tourne, pour que ça garde le rythme. Et là, donc, la grève met un terme à tout ça et permet de découvrir des situations complètement nouvelles, c'est-à-dire déjà des situations complètement bêtes. On mange ensemble, on se retrouve dans l'usine à faire autre chose que le travail habituel. Et puis, tout d'un coup, on redécouvre que les machines sont là. Et en l'occurrence, c'est une imprimerie. Donc, l'imprimerie, elle peut servir aussi à faire les tracts ou à faire des documents pour exposer, exprimer leur propre cause. Et surtout, ce que je trouve très intéressant dans ce film-là, c'est que à ce moment-là, une autre vision du travail émerge. C'est-à-dire que ces personnes qui ont toujours été chacune devant leur machine, donc dans le principe habituel de division du travail, chacun est devant son petit secteur et ne peut pas s'en échapper et n'a pas conscience de ce que font les autres. Et là, tout d'un coup, ils prennent conscience qu'il y avait des postes voisins à quelques mètres d'eux qui effectuaient des tâches complètement différentes des leurs propres et que tout ça avait un sens dans une totalité. Donc il y a une conscience du groupe qui émerge et il y a un échange des rôles, c'est-à-dire que chacun prend plaisir à venir toucher les machines, activer les machines de l'autre. Et voilà ce qui est intéressant, je trouve, dans cette expérience d'autogestion, en fait. C'est tout d'un coup, une autre idée du vivre ensemble apparaît, une autre idée du travail apparaît. Et du coup, notre idée de société apparaît.
Alors, un autre film qui va être présenté quand, Henri, celui-là, Les femmes de la Bruckmann.
Samedi soir.
Samedi soir, Les femmes de la Bruckmann, c'est un film d'Isaac Isitan. Et pour en parler, on a avec nous Nils Solari, qui est journaliste, notamment qui participe à l'équipe Acrimed. Et Nils Solari s'est intéressé à ce qui se passe en Argentine. On sait comment, depuis 2001, avec la crise, alors celle-là particulièrement violente qui a frappé l'Argentine, il y a eu des quantités d'initiatives un peu de la même nature, hein, où les salariés ont repris leurs entreprises. Et notamment, on m'a souvent parlé de ce fameux hôtel.
Le Bauen. L'hôtel Bauen à Bauen, Buenos Aires.
Ouais. Là, à Buenos Aires, qui est un hôtel de luxe. Hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Allez-y. Oui.
Qui est un hôtel qui a été repris pareil, donc par les salariés, un peu comme ce que vous venez de dire, qui a été fermé. Les patrons ont mis la clé sous la porte et les salariés ont refusé cette situation et sont venus le réouvrir et réexploiter ce lieu qui était traditionnellement un lieu fréquenté par, y compris des touristes très argentés, nord-américains ou européens. Et c'est un hôtel qui continue de fonctionner sous ces modalités. Et c'est une expérience parmi tant d'autres. On va voir demain le film sur la Bruckmann, donc qui sont des ouvrières qui travaillent dans le domaine du textile. On a parlé du Bauen. On pourrait parler de la Rufat, qui est une entreprise aussi qui fabrique des chocolats, avec un slogan assez rigolo qui est « Chocolaté sin patron », des chocolats sans patron. On peut parler aussi de la Sanon, qui est une entreprise de céramique dans la province de Neuquén, à l'ouest de Buenos Aires, qui fait de la céramique et qui est assez, assez exemplaire dans le mouvement parce qu'elle elle maintient une radicalité assez forte. Que dès le départ, dès 2001, ils ont toujours revendiqué cette démarche comme une volonté de transformation de la société argentine, notamment, pourquoi pas, vers l'établissement d'une société socialiste. Il y a d'autres initiatives aussi. Il y a la Chila Verte, il y a l'IMPA, qui est une entreprise d'imprimerie également plus récente, qui a surgi dans les années 90, enfin sous ce mode autogestionnaire. Et puis d'autres aussi vers Cordoba, dont un exemple de journal, par exemple, qui s'appelle Economía y Justicia, l'économie et justice, et qui travaille de quelque manière avec le petit patronat local qui essaie de l'associer.
Mais Nils, est-ce que ces entreprises marchent sur la longueur ? Parce qu'il y a un film superbe qui va être diffusé là, c'est le Charbons Ardents.
Jean-Michel Carré.
De Jean-Michel Carré, sur l'histoire des mineurs de Tower Colliery au Pays de Galles. Et j'avais fait le reportage, on avait fait un reportage nous avant, mais Carré est allé plus loin que le reportage radio que nous avions fait. Et il a raconté, il a montré toutes les complexités, les contradictions, etc., d'une telle initiative. Magnifique, superbe. Les mineurs sont tous virés et avec leurs indemnités, ils mettent leurs indemnités ensemble pour faire remarcher leur mine en la gérant eux-mêmes. Et il la gère d'une façon exemplaire, avec très peu de différences de salaire, de hiérarchie, un contrôle des décisions absolument formidable. Enfin, moi, j'étais revenu de là tout à fait enthousiasmé. Mais sauf que maintenant, il n'y a plus de charbon et quoi, ils ont été obligés de recycler. Alors, ces entreprises, qu'est-ce qu'elles deviennent sur la durée ? Ça n'empêche pas que la démarche est superbe. Mais qu'est-ce que ça devient sur la durée ?
Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident de maintenir une démarche autogestionnaire radicale comme elle a pu l'être et comme elle a pu avancer, comme elle a pu être avancée comme telle en 2001. Il y avait une situation sociale assez explosive en Argentine. Je vous passe toutes les explications sur le mandat Menem et compagnie, bien que ça serait intéressant d'y revenir. Mais il y avait une situation explosive et que quelque part, la situation de crise financière, le fameux Corralito, est venu déclencher complètement. Maintenant, on est en 2009, ça fait 8 ans. Où on en est, c'est sûr que ça pose de grosses problématiques par rapport au maintien de ces formes autogestionnaires, de ces formes d'entreprises récupérées par rapport à la coexistence avec le marché capitaliste. C'est sûr qu'on est en face d'entreprises qui, certes, tentent de développer un nouveau moyen de produire et de s'organiser, voire même de se répartir les revenus sous forme de liquidité, mais qui continuent de gérer avec des fournisseurs et des clients qui restent, eux, sous la modalité capitaliste.
Mais voilà.
Donc c'est pas évident et c'est ce que moi je vais essayer d'aller interroger, j'espère, à la fin de cette année ou en 2010 en me rendant là-bas.
En tout cas, la présentation du film, ça donne envie. C'est ce soir à...
Non, c'est pas ce soir, c'est demain à 18h.
Demain à 18h. Ouais. Fanfaron. Il suffit de dire fanfaron et ça marche. Voilà, les fanfarons en direct de la salle. Henri, bientôt à la salle, un festival.
Oui, un festival de chorale qui est organisé, entre autres, par une partie des fanfarons et les musiciens de la salle. Et c'est la 8e édition et c'est, je dois dire, absolument magnifique. C'est vraiment un grand, grand plaisir que d'entendre ces amateurs et ces professionnels se mélanger. C'est très émouvant et ça a lieu le 13 et 14 juin à la salle. Et je vous conseille tous de venir, vraiment, c'est magnifique.
Il y a de la voix. Bonjour, bonjour, les ritournelles, il y a de la voix. Ok, alors on va parler de radio, tiens, un petit peu quand même, avec nos confrères de Radio Grille Ouverte, qui est une radio associative.
Une radio associative,
Laurent,
oui.
Keller, qui est créée en 1982.
Alors l'association pour créer la radio, c'est dans les années 80, mais la diffusion sur les ondes a été obtenue en 1992. Il a fallu demander l'autorisation au CSA et c'est cette année-là que ça...
Ouais, on avait fait un entretien l'année dernière, j'avais été étonné par votre rigueur et votre professionnalisme.
Ben depuis ces années-là, effectivement, on essaye chaque année d'améliorer un peu la façon de faire la radio.
Mais on m'a noté radio d'inspiration protestante, c'est quoi? Inspiration protestante, c'est quoi?
Effectivement, le petit noyau qui a créé la radio était d'origine protestante et a eu envie de faire vivre cette parole-là sur les ondes. Et pour cela, il y avait une émission de radio sur une autre radio associative précédente. Lorsque cette radio associative a disparu, ils ont dit « Banco, on continue » et on crée notre radio pour faire exister cette parole-là sur les ondes, pour accueillir d'autres paroles également qui, sinon, n'ont pas forcément de débouché sur les ondes publiques, sur ce bien public que sont les ondes, qu'exploitent le service public de France Inter, par exemple, ou commercial. Eh bien, il y a aussi les associatives qui, elles, viennent compléter, réparer parfois des temps d'antenne un peu insuffisants sur les autres antennes. Et voilà, la foi réformée, par exemple, mais aussi...
La foi réformée.
Réformée, protestant réformé, c'est notre ferment d'origine qui a été ouvert, bien entendu, à d'autres fois, évangéliques, méthodistes, et voilà.
Moi, je suis toujours étonné par la ténacité des radios associatives en France. Les difficultés qu'ont toutes ces radios associatives à survivre, et la ténacité des gens et l'amour que les gens, que les Français, dans la pratique et dans l'écoute aussi, ont de la radio. Et à quel point toutes ces radios associatives manquent de budget, de soutien alors que là, il y a une vraie envie de culture, une vraie envie d'échanger, de passer des infos. Je disais à Eric Hazan à l'instant à quel point la radio était le premier média au monde, le plus rapide et le plus utilisé, le plus écouté. C'est le premier média au monde. Je disais à Eric que la première radio au monde, c'était Radio Vatican. Première radio au monde, c'est-à-dire le premier média mondial, c'est Radio Vatican. Et on peut faire confiance à ces gens-là en ce qui concerne la propagande.
Alors... À la différence de
les
Radio
protestants Vatican, défendent bien aussi visiblement.
Mais à la différence de Radio Vatican, il n'y a pas une radio qui diffuse sa bonne parole sur le monde entier. C'est 600 radios associatives en France, en tout cas, différentes. Chacune a un noyau d'origine et puis des composantes différentes. Les droits de l'homme, la musique, différents styles musicaux, différentes variétés d'associations humanitaires, culturelles. Et sur l'antenne de Grille Ouverte à Alès, nous, on reçoit des associations, que ce soit Amnesty, RESF, parfois la CIMAD, parce qu'il y a un centre à Nîmes, mais ils sont tellement occupés qu'ils ont un peu de mal à trouver un débouché sur l'antenne. Mais on reçoit également les structures culturelles et on fait parler. Alors ici, on est présent à la salle pour ce festival depuis plusieurs années. Cette année, on est présent sur les trois jours. On enregistre une émission, on reçoit les invités, et comme vous, Daniel, l'année dernière, et on leur laisse le temps de présenter, de parler de leur film, de leur projet.
Ouais, j'ai vu que c'est très bien fait. On en profite pour parler de... J'ai une jeune fille tout à l'heure, MTT de Mayotte, qui est là quelque part, et qui m'a donné ça dans les rues de la salle. Vous avez sûrement rencontré les salariés de Regard de Jeunes, chantier d'insertion de l'association Peuple et Culture de Nîmes. Et il y a des jeunes filles qui sont là et qui sont en train de faire des stages de radio. Henri, tu peux parler de ça un peu mieux que moi ?
Oui, enfin, nous, on aime beaucoup que le festival agrège un peu toutes formes d'associations et d'activités. Et entre autres, le projet de Peuple et Culture de proposer aux jeunes des chantiers d'insertion sur le journalisme, les médias, était une très bonne idée, donc on s'est tout de suite associé avec eux et dit donner notre accord pour qu'ils viennent faire un peu leur métier de journaliste en herbe sur le festival.
Ok, alors on revient au cinéma avec Graham Rigby, c'est ça ? C'est
bien, ça va, c'est bien.
Jusque-là, ça va. Et Graham Rigby présente un film qui s'appelle The Writing in the Sand, écrit dans le sable, et c'est le collectif Amber. La présentation du film donne une idée très imprécise et quelque chose de flou, de saugrenu, de nonsensique, si bien que j'ai rien compris, mais c'est juste la présentation.
Alors le film, c'est un travail de 17 ans d'un photographe, ouais, Circalisa Continent, c'est une membre du collectif. Et le film est construit presque tout de ces photographies de la vie classe ouvrière dans les plages du nord-est de l'Angleterre. Oui. Ce qui arrive dans un jour. Oui.
Mais c'est uniquement des photos.
Presque uniquement.
17 ans de photos et on filme les photos.
Oui. 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 C'est ouais. Comme la jetée, mais différent.
Ah, la jetée, carrément, on ne prend pas moins comme référence. Qu'est-ce que c'est le collectif Amber?
C'est un collectif de cinéastes et photographes depuis 40 ans.
40 ans.
40 ans, qui est suivi dans le nord-est de l'Angleterre, à Newcastle upon Tyne. C'est engagé avec les communautés, créer les films du communauté classe ouvrière, marginale, tout ça, comme ça. Et c'est bien.
Mais ça a l'air d'être...
Ça marche.
Henri, comment tu vas dégoter tous ces films?
Ah ben ce film existe déjà depuis quelques années. Writing in the Sand, c'est quelle année? C'est 62... Non, 2000 et quelques...
91.
91, tu vois un peu. Et voilà, donc j'étais, comme on fait une programmation sur toute l'histoire du cinéma. Donc voilà, je vois beaucoup de films par an, je vois 200, 300 films par an, et voilà, je suis tombé dessus.
Ouais, ouais. Voilà. On t'envoie des films, les réalisateurs
On m'envoie des films, c'est pas toujours
sinon,
les meilleurs.
Sinon, c'est toi qui cours, c'est toi qui cours dans tous les festivals, tu vas voir.
Je me fais une petite sélection de festivals,
C'est quand ça The Writing the Sun, c'est projeté quand?
C'est à 16h30 à l'église aujourd'hui.
Vous avez déjà fait l'animation après le film?
Quoi?
Vous parlez avec le public? Dans l'église là?
C'est le temple, je pense. L'église, c'est la suite du bonheur, je pense.
Writing in the Sun, c'est à l'église.
Ah oui? Vous allez voir, c'est très curieux quand vous faites l'animation dans l'église, film, vous avez l'impression d'être vraiment le curé en chair avec son micro qui répond aux ouailles. On continue.
Il y a un autre film à 18h, La Poursuite du Bonheur, c'est aussi du collectif.
La Poursuite du Bonheur qui est au temple à 18h.
Merci, on continue, il nous reste 9 minutes, on continue... avec un film produit par nos amis belges, Yannick Bovy, HF6, le film, et ça traite de l'histoire des hauts fourneaux ArcelorMittal à Seraing, près de Liège. Et on peut évoquer ce film en quelques mots?
Eh bien, c'est un film qui raconte une lutte syndicale, comme quoi le bonheur, il est aussi dans la lutte. Le groupe Arcelor a décidé, il y a quelques années, de fermer l'un des deux, donc de fermer en fait toute la sidérurgie à chaud de Liège. Et puis l'arrivée de M. Mittal, que vous connaissez bien en France, a permis aux organisations syndicales de reprendre un peu la main. Il y a une lutte très importante des métallurgistes de Wallonie, de Bruxelles et les métallurgistes liégeois. Une lutte syndicale combative qui a permis de renverser la vapeur et de faire réouvrir il y a un an le haut fourneau 6 de Seraing, donc HF6. Donc là, pour le coup, on était dans le bonheur, dans l'euphorie, dans à peu près 10 000 emplois qui étaient sauvegardés sur la région de Liège. C'est pas négligeable dans une région où il y a une vingtaine de pourcents de chômeurs. À Seraing, c'est même plus que ça. Et puis malheureusement, on est rattrapé par le rouleau compresseur du capitalisme, puisque depuis trois jours... Depuis trois jours, le HFB, donc le deuxième haut fourneau qui alimente la sidérurgie à Liège, est sous cocon. Sous cocon, donc en fait, il est arrêté, soi-disant de manière temporaire. Et le haut fourneau 6, qui est l'outil héros du film qu'on a présenté hier soir à la salle, lui a été fermé à nouveau, 8 mois après sa réouverture il y a un an. Donc ça veut dire que l'euphorie liée à cette lutte syndicale victorieuse est quelque peu retombée, puisque Mittal et ses actionnaires ont décidé, très peu de temps après avoir investi énormément d'argent dans la relance de la ligne à chaud à Liège, de s'en désintéresser complètement et de l'arrêter, disent-ils temporairement, mais les 10 000 travailleurs concernés sont très dubitatifs et...
10 000 emplois.
Donc si les hauts fourneaux directement n'emploient pas 10 000 personnes, mais toute la chaîne de la sidérurgie intégrée à Liège, sous-traitants, usines, laminoirs, coqueries, etc., c'est à peu près 10 000 emplois concernés.
Le film a déjà été projeté, c'est ça?
Hier soir, oui.
C'est ça. Réaction du public?
Ben, les gens étaient très bon accueil pour le film sur ce beau moment de lutte syndicale. Évidemment, beaucoup de questions par rapport à l'actualité. Et le thème du festival, c'est « Il est où le bonheur ?» Ben, aujourd'hui, à Serein, le bonheur, il n'est pas là. Toute l'histoire, c'est d'arriver à faire comprendre que la lutte qui a permis de vaincre la fatalité et ce rouleau compresseur qu'on a en face de nous, il faut la réactiver et qu'on peut aller, comme tu disais Henri tout à l'heure, à la recherche une nouvelle fois de ce bonheur pour essayer d'inverser une nouvelle fois la balance.
Il nous reste quelques instants. Merci Yannick Bovy. Il nous reste quelques instants pour parler du film de Daniel Kupferstein, Dans le regard de l'autre. Alors, le film de Kupferstein concerne l'histoire de Sohan. Vous vous souvenez de cette histoire, de cette atroce histoire, cette jeune fille retrouvée brûlée vive dans un local à poubelle de la cité Balzac à Vitry-sur-Seine. Et
vous avez... Non, c'est pas le film sur cette histoire. C'est à partir de cette histoire où le hasard a fait que j'étais au procès du meurtrier, où j'ai commencé un peu à filmer, où j'ai senti un malaise terrible entre... Parce que moi, j'ai habité aussi dans une cité, où j'ai senti un malaise entre la majorité des médias qui étaient présentes, la vision qu'ils avaient de la banlieue en général, et je me suis senti très mal, parce que j'ai senti une espèce de généralisation, comme si on montrait un peu du doigt l'ensemble de la banlieue. Et à un moment, il y a un journaliste, quand il y a eu le procès, il y a eu le verdict, 25 ans de prison pour le meurtrier, il a dit, est-ce que c'est un exemple, à l'avocat, est-ce que c'est un exemple pour les banlieues? Et comme là, j'ai trouvé que c'était la généralisation, la stigmatisation totale, donc je suis parti, j'ai dit, je vais essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe exactement dans ces cités, dans cette cité, comment vivent les habitants, parce que on parle souvent négativement des cités, d'ailleurs, dès qu'on parle cité, on parle violence ou délinquance. Et on oublie complètement qu'il y a des habitants qui vivent là. Et en l'occurrence, il se trouve qu'il y a tout un programme de transformation et de rénovation totale de la cité. Et au fond, la plupart des habitants, ils ne veulent pas partir de là. Et c'est toute cette contradiction entre le regard que nous tous, moins moi parce que j'ai habité dans une cité, mais que l'ensemble des gens ont sur les cités, et les habitants eux-mêmes qui parlent eux-mêmes de leur vécu et comment ils parlent de leur regard et comment ils parlent de la réputation de la cité, etc.
Vous avez projeté le film, évidemment, aux habitants eux-mêmes.
Pas encore, tout à fait. Je l'ai projeté juste au principal protagoniste.
Alors
ils sont en larmes. Ils sont en larmes parce qu'ils voient qu'il y a une explosion, une destruction du des tours. Et ils sont en larmes parce que pour eux, c'est leur vie, une partie de leur vie, comme un deuil terrible qui s'en va.
Merci Daniel Kupferstein. C'est quand
C'est passé hier.
C'est passé hier. Ok.
Très bon accueil.
Bon, le festival dure jusqu'à samedi soir. Je voudrais simplement, pour finir, donner la parole à Sergio Gardi, que j'ai rencontré l'année dernière, qui est intervenu dans la projection du Chomsky et qui, à nouveau ce matin, est intervenu. Sergio est italien et fait partie du public. On a essayé de faire parler les gens du village. Et aussi, il faut quand même donner la parole de temps en temps au public. Sergio, vous avez la parole, vous avez une minute.
C'est pour dire qu'il y a du bonheur à écouter tellement d'envie de bonheur dans les discours de tous les gens qui ont participé et dans les films aussi. En même temps, il ne faut pas oublier que quand on parle du bonheur, on doit surtout dénoncer sa manque, qui est plutôt dominante dans nos sociétés. Et je me pose donc la question des bonheurs au pluriel. Alors, je ne sais pas ce qu'il pensait Saint-Just quand, en pleine Révolution française, disait « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». C'est une phrase forte de Saint-Just pendant la Révolution bourgeoise. Je sais un peu mieux ce qu'on pensait en 68 quand on disait la même chose, mais en cherchant de passer à l'acte, c'est-à-dire à mettre en pratique l'idée de bonheur. Et cette idée de bonheur n'avait rien à faire avec la récupération qu'elle était faite en associant mai 68 à la consommation. Mai 68, c'était la critique de la consommation, c'était le refus du travail. Et ceux qui aujourd'hui demandent de travailler plus pour gagner plus, sont plutôt dans une optique qui est absolument anti-68 ans. Voilà, c'est tout ça que je pense. Je pense encore que le bonheur est lié à une redistribution de la richesse plutôt que de la manque de travail.
Merci Sergio. Merci à tous. Eh ouais, il va être 16h. Merci à tous et à toutes. Le festival de la salle se tiendra jusqu'à demain soir.
Merci aux fanfarons que vous entendez derrière moi. Nous saluons la collectivité territoriale qui continue de soutenir malgré la crise. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, l'équipe de Radio France, Jean-Pierre Pernel, Jean-Marie Porcher, Tanguy Le Corneau, Jean-Valéry Tarasco, chargé de production Jean-Marc Clos, c'est Coyen Guyenne et Raphaël Mouterde qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Charlotte Perry, le répondeur de là-bas si j'y suis. Vous le savez, a pour numéro le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Jusqu'à demain soir, samedi, vous pouvez nous rejoindre ici à la salle.